Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, Kaamelott, la série. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous informer que le 21 juillet prochain sortira dans les salles de cinéma le premier film Kaamelott. Parce que même si vous ne connaissez pas la série, même si vous n'aimez pas Kaamelott, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler de la sortie cinéma.
C'est pas faux.
N'est-ce pas, hein? Ouais, cinéma. C'est le truc qui vous éloigne de votre écran à la maison et vous entraîne dans un endroit avec un grand écran, ce coup-ci, des gros fauteuils, un son énorme. Vous savez, le cinéma. Le cinéma qui a bien besoin de vous pour se refaire une santé après ces derniers mois. Oui. En achetant votre billet, hein, vous incitez à ce que des films soient tournés. C'est dingue, hein. Oui, je sais, mais je m'emporte.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
Kaamelott au cinéma, c'est une longue histoire. Non seulement parce que le film a mis des années à se concrétiser, mais parce que la série existe depuis 16 ans, voire plus, si on remonte au court-métrage d'origine, Dies Irae, en 2003. Oui, si longtemps que ça.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens.
Et alors que d'autres auraient déjà renoncé, auraient laissé là une série qui avait fait son temps, Kaamelott a continué. Et continué à travers ses longs métrages cinéma, parce que Kaamelott, même si c'est rigolo, c'est une saga. Une histoire, une trame, qui doit, à un moment, trouver sa conclusion. Alors, on n'y est pas, mais un jour, l'histoire sera achevée.
C'est rouvré, on en a gros!
Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche.
La sourde oreille.
Alors, je vous propose donc, pour vous préparer au film et pour réviser un peu votre petite Kaamelott pratique, de sortir des punchlines et des répliques entendues maintes fois et qui parsèment maintenant la moindre des conversations dès qu'on parle de Kaamelott. Ouais, du genre de ce que je vous fais depuis le début de ce podcast-là. Bon, parce que c'est amusant, mais c'est superficiel. Kaamelott ne se réduit pas à...
Sire, ouvrez !
On en a gros !
Non, ça sera aussi réducteur que de réduire une série à son générique, hein. Alors, pour avoir une vision claire de ce qu'est Kaamelott, il faut revenir au début. En 1999, débarque sur la deuxième chaîne française un programme qui est une adaptation d'une série québécoise. Une série de sketchs courts, percutants et dynamiques, qui met en scène un gars, Jean Dujardin, et une fille, Alexandra Lamy.
Eh oh, l'Académie française, ça y est, t'arrêtes de m'énerver, là ? Je dis ce que je veux !
Bon, écoute, si tu veux te lâcher le poète, assume, hein, s'il te plaît. Dans ce cas-là, tu fais du standard. Tu dis la mer est belle, on boit du punch, on rigole beaucoup et on s'aime. Merde !
Vient donc de débarquer en France ce que certains appelleront par erreur une mini-série, mais qui s'appelle en fait une short-com, une comédie courte. Un gars, une fille devient un phénomène et sur une grille des programmes a l'avantage de rassembler juste avant le prime time. Et surtout, elle fait rire, tout simplement. D'où son nom de comédie. Comédie courte. Short-com. Bah oui, c'est logique. Sur une chaîne privée, la shortcom prend une autre signification. Fidélisante et intemporelle, la shortcom a le grand avantage de figer devant l'écran entre deux brouettes de pub. Et ça, c'est inestimable. En 2001, M6 reprend donc le même format avec Caméra Café, de Bruno Solo, Yvan Le Bolloc et Alain Capot. Le sujet est simple, des sketchs comiques, avec des personnages très bien définis et caricaturaux en train de prendre leur pause au travail. Là encore, le succès est phénoménal. Et d'avoir une shortcom à cette heure-là va vite devenir indispensable pour la chaîne. Encore de nos jours, bah c'est le cas avec Scène de ménage. C'est bien pour cela que, quand en décembre 2004, Caméra Café s'arrête, le fait d'avoir une autre shortcom est une priorité. Et la firme de production de Caméra Café a d'ailleurs déjà son projet tout prêt à succéder à leur succès, avec même des pilotes qu'ils ont fait tourner par le créateur du concept. « Le concept de cette nouvelle shortcom, eh ben, il est simple. On va parodier la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde dans des scénettes décalées parce que dialoguer avec un langage contemporain et familier. Et puis décapant aussi parce que ces chevaliers sont en fait totalement abrutis et complètement incompétents. Perceval, Caradoc, Bohort sont à 100 années-lumière d'assumer leur rôle de chevalier et encore moins de se lancer dans la quête du Graal. Et Arthur, de son côté, a fort à faire pour supporter son beau-père, Léo Dagan, un vingt en guerre absolu, et sa femme, Guenièvre, qu'il fréquente de très loin.
Non, mais si vous avez quelque chose de très important à me dire, il n'y a pas de problème. Mais là, comme il faut que j'ai fini ça avant demain, sinon voilà.
Ah, vous avez pas envie de parler.
Mais c'est pas que j'ai pas envie de parler.
Vous savez, on n'est pas obligé de parler.
Ben voilà, vous avouerez, ça m'arrange.
Non, je veux dire, on peut faire des choses sans parler, si vous voulez.
Ah oui, ça y est, je sais pas, d'accord. Oui, mais non, là non, ça, là, honnêtement, je préfère pas.
Ah, c'est votre blessure qui vous fait encore souffrir.
Bah, déjà, il y a ça. Donc c'est vrai, je n'y pensais plus, mais maintenant que c'est presque guéri, ce serait quand même dommage de...
Vous voyez. Non, mais je croyais bien faire. Hein.
On pourrait imaginer que Merlin, figure mythique de la légende arthurienne... Ben oui, souvenez-vous du film animé de Disney, de la mini-série télé avec Sam Neill, et c'est sans compter avec la future série anglaise. Merlin, donc, allait être la figure rassurante de la série. Et ben même pas. Merlin est un druide assez incompétent, pas très capable de choses, tout comme la Dame du Lac qui parle à Arthur.
Regardez-nous, il n'y en a pas deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde... Pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur.
En janvier 2005 démarre donc Kaamelott, dont 100 épisodes de 3 ou 4 minutes ont été commandés. Yvan Le Bolloc a d'ailleurs fait une apparition dans un des tout premiers épisodes dans le rôle d'un artisan qui travaille sur la table ronde, histoire de faire un passage de flambeau sous la forme d'un clin d'œil à la shortcom précédente.
Si vous avez des reproches à me faire, c'est pas la peine de virer vos parents, d'habitude ils vous gênent pas, hein.
Mais j'ai pas de reproches, espèce de marteau.
Alors quoi? Vous allez rester là tout le repas comme ça, à me regarder avec les yeux de poulet? Mais ça devient flippant, qu'est-ce que j'ai fait encore?
Mais rien, vous avez rien fait!
Ben, j'ai rien fait, je fais ce que je peux, figurez-vous, j'ai pas quatre bras! Alors si c'est pour me frire la tête encore une fois sous prétexte que j'ai pas de considération ou je sais pas quoi...
L'humour des dialogues et les personnages parfaitement bien définis font mouche. Kaamelott est un grand succès, draine une audience allant jusqu'à 5 millions de téléspectateurs et se voit donc renouvelé très vite pour plusieurs centaines d'épisodes.
À la gagne, il n'y a que trois possibilités. Soit vous faites votre sirop d'huit et vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14 et vous dites beau sirop, sirop gagnant et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21 et vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, gagne sirop, sirop grelot, passe-montagne, sirop bon goût.
Oui. Moi, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien.
Vous avez raison, simplifier.
Le livre 2 commence en mai 2005 et sera diffusé jusqu'à la fin de l'année. C'est au lancement de cette saison 2, ce livre 2 donc, que, intrigué, je me rends donc à Arcueil. Ouais, Arcueil, c'est en banlieue parisienne, du côté de la Porte d'Orléans, en direction de Bourg-la-Reine, vous voyez. Donc par le RER, c'est l'arrêt Arcueil-Cachan. Mais vous pouvez aussi prendre le bus 187, moi c'est ce que j'ai fait, et l'arrêt Grange-Horry. Là, si vous voulez faire absolument comme moi, vous vous rendez au 6 rue Victor Carmignac. Enfin... Il faut pour ça être en mai 2005, hein, parce que maintenant, il n'y a plus rien. À l'époque, c'était dans un entrepôt, dans cette petite rue, où était érigé le décor de la série et où tous les épisodes étaient tournés par Alexandre Astier et écrits par Alexandre Astier. Alexandre Astier qui s'était donc donné le rôle du roi Arthur. Voilà, on est arrivé et hop, ben maintenant je lance l'enregistrement.
Alexandre Astier, bonjour, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous plaît dans Les Chevaliers de la Table Ronde et la légende du roi Arthur? Est-ce que vous pensez visiblement que c'est suffisant pour faire du comique? Quel est l'élément comique qui vous a le plus séduit là-dedans? Parce qu'a priori, ça semble pas très drôle quand même.
Ce qui m'a le plus plu, c'est la possibilité tout simplement de démonter un mythe. Il me fallait un sujet, j'ai pas d'amour particulier d'ailleurs pour le truc, si ce n'est que je suis un ex-joueur de jeux de rôle et compagnie, mais à part ça, je dois dire que les clichés qu'ont les gens au sujet de la chevalerie en général et du fait qu'ils se parlaient qu'en 100 ans, c'est extrêmement solennel, etc. Et déjà, rien que le fait de mettre ces gens-là et de les faire parler au quotidien, c'est déjà le premier plaisir des acteurs. Quoi. C'est d'abord fait pour les comédiens, ce Kaamelott.
C'est d'abord fait pour les comédiens, mais aussi pour les téléspectateurs. D'un autre côté, quel est quand même un peu le style d'humour dans Kaamelott? Enfin, moi, je le rapproche un petit peu à un Monty Python sacré Graal. Et presque un humour à la Canal+, qui est un peu étonnant quand on voit ça sur M6, non?
Et oui, je sais, moi, j'ai pas le droit de dire que ça fait Canal, parce que...
non, mais moi, j'ai le droit.
Tout à fait. Donc, je vous crois sur parole. Mais non, disons que l'humour Canal, c'est censé être l'humour décalé. Alors, décalé, je sais pas bien ce que ça veut dire, et peut-être que ça veut dire british aussi. Moi, je trouve que les British sont les plus calés en matière d'humour. Enfin, c'est l'humour que je préfère, en tout cas. Je suis ravi qu'il n'y ait pas une chaîne particulière pour ce genre de truc. Et qu'une chaîne parfaitement populaire comme M6 et qui a des cibles d'âge et toutes catégories confondues se retrouve dans Kaamelott parce que voilà, c'est un décalé. Voilà, c'est tout ce que je peux trouver comme terme, décalé.
On parlait de Monty Python, mais quelque part, ce que vous regardez dans le genre comédie à la télévision, c'est plus justement des comédies britanniques, du Absolutely Fabulous, du Featherhead ou des choses comme ça, ou est-ce que c'est plutôt ça vos sources d'inspiration?
Je sais pas. Je suppose que comme tous ceux qui inventent des trucs, les sources d'inspiration sont multiples et on retrouve des paternités dans beaucoup de trucs. Moi, chez les Anglais, ce qui me fascine en ce moment, c'est Big Train. C'est un truc qui est pas connu en France. C'est un peu un flying circus moderne, quoi. Et effectivement, c'est des gens qui font la comédie très sérieusement. C'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire, l'environnement de Kaamelott est traité sérieusement. Il n'y a pas d'anachronisme, il n'y a pas de gag dans le décor, dans les accessoires, dans les costumes, dans l'époque, dans les faits de la légende. Et on est dans du médiéval et puis aussi dans de l'héroïque fantasy, ce qu'on appelle le monde des donjons dragons, tout ça. Et ça, j'essaye de le traiter le plus sérieusement du monde. Ça coûte cher, donc il faut de l'argent. Mais au-delà de la limite que me donne l'argent, j'essaye de faire ça sérieusement. Et à l'intérieur, c'est la situation qui déraille. Mais c'est pas du gag et c'est pas de la déconnade. Je tente de faire ça le plus sérieusement du monde. Et peut-être c'est ça qui donne un côté british.
Je pense aussi. On voit qu'en France, on n'est pas les spécialistes des sitcoms. Les tentatives qui ont été faites dans le domaine ont été plus ou moins bien réussies. En tout cas, elles n'ont pas donné lieu à d'autres sitcoms dans le pur sens du terme, c'est-à-dire du 26 minutes et des choses comme ça. Par contre, les programmes courts, comme le vôtre et comme d'autres que je ne vais pas citer, mais on les a tous en tête, ont l'air de bien fonctionner et vraiment, mais plus que bien fonctionner. Vous pensez qu'un programme comme Kaamelott, c'est la sitcom telle qu'on ne l'a jamais pu le faire en France?
En France, je trouve qu'il y a un problème qui est proportionnel au minutage. C'est-à-dire que quand on s'attaque à un 26, ou un 52, ou un 90, on se retrouve des fois face à des gens qui dialoguent bizarrement. C'est-à-dire qu'ils se laissent moins aller. Et quand ils se laissent moins aller, généralement, ils dialoguent et ils ont des répliques. J'en parlais tout à l'heure avec un pote. On entend des choses à la télévision. Moi, je lis des choses, des fois, sur des scripts, du style, qu'en pensez-vous, commissaire? Ou qu'en pensez-vous, inspecteur? Et qu'en pensez-vous, inspecteur? Ça a l'air de rien sur un papier, mais ça peut démonter un projet, ça. Parce que personne ne dit ça. On peut croire que les gens disent ça. En lisant, ça mange pas de pain. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Or, déjà, c'est très grave. Ça propulse les acteurs dans un no man's land où ils ne peuvent se rattraper à rien qui leur appartient. Ça propulse les auteurs dans une forme de... L'erreur, elle est très vite faite. C'est-à-dire que, déjà, premièrement, il n'y a plus d'inspecteurs en France depuis longtemps, c'est les lieutenants. Rien que ça, ça change tout. Et puis, on dit pas qu'en pensez-vous. On dit qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que vous en pensez, vous en pensez quoi. Mais rien que ces deux inversions de mots, ça change tout. Et si tout le script est comme ça, je connais des très très bons acteurs qui jouent comme des pieds dans certaines circonstances. Et ça, il n'y a pas à dire, il faut avoir un peu plus d'humilité que ça. C'est-à-dire que les Américains, on peut en penser ce qu'on veut, mais ils ont l'humilité de reprendre tout depuis zéro. Et quand on prend des cours d'écriture avec des Américains, ils commencent à Aristote. Ils commencent pas chez eux. Ils regardent tout. Je trouve qu'on est des fois très prétentieux et qu'on pense tout savoir faire. Il faut être plus humble que ça. Le problème du sitcom, il est là.
Vous pensez...
Excusez-moi, il y en a qu'on Moi, j'aime bien H. J'aimais bien les trucs comme ça. Je trouve qu'il y a des trucs qui ont... Il y a eu des super tentatives, quoi. C'était, il y a quand même des trucs réussis. Mais j'allais dire dans le style téléfilm, dans le style urbain, contemporain, sérieux. Et là, je parle plus de soap, ni de comique. Je trouve qu'on a le cul entre deux chaises. On n'est pas américain et on n'arrive pas à être français. Donc c'est un peu curieux. Faut pas avoir peur de notre langue. Faut pas avoir peur de notre langue de rue.
Mais vous imaginez que Kaamelott puisse être un format à la sitcom, un format à la comédie, à savoir une histoire A, une histoire B, bref, sans parler de Friends ou de Seinfeld, enfin, pas simplement un programme court avec une suite de scénettes, mais vraiment une trame centrale, 25 minutes, 26 minutes. Vous préparez peut-être des projets de films, d'adaptation, des choses comme ça, vous pensez que ça peut tenir le choc? Vous pensez que c'est simplement les chaînes françaises qui ne sont pas habituées à ce genre de format?
Bah, je crois que, d'après ce qu'on me dit, on me dit toujours que j'ai de la chance. C'est-à-dire que je suis arrivé sur une chaîne populaire, grand public, avec un truc inhabituel, quelque chose qui coûte trop d'argent pour le format que ça prend, et qui plus est avec des têtes parfaitement inconnues. Et normalement, surtout l'âge que j'ai, j'aurais pas dû avoir accès à ça, surtout en écrivant ce que je veux, et surtout en prenant les gens que je veux. Or, au bout d'un moment, c'est la première irrévérence de Kaamelott, c'est d'y être quand même. C'est d'y être quand même, et de cette façon. Et si ces irrévérences-là se produisent ailleurs, sur d'autres chaînes, avec d'autres gens, c'est... Pour ce qui est du format, après, c'est peu importe. Moi, je ne change pas la façon de le faire, que ce soit du 3, du 26 ou du 52. On prépare 2,52 pour M6, qui ont un format particulier. Ce sont des histoires, en fait, de 12 ou 13 minutes qui sont vues de trois points de vue différents, qui sont à la suite. Parce que je pense que c'est un format plus télévision, ça. Il y a une anecdote dans la structure, déjà. Et puis on pense à des longs métrages, évidemment, là, beaucoup plus classiques. Mais c'est une histoire de taille d'idée. C'est-à-dire qu'une petite idée suffit à du 3 minutes. Ça ne suffit pas forcément à du 26, ça ne suffit pas à du 52. Je pense que si je fais un long métrage, ces gens-là vont trouver le Graal. Si je fais un 3 minutes, une crampe à la cheville peut me suffire.
Peut suffire. Donc c'est la force de l'idée qui fait le programme et pas vraiment les contraintes des chaînes et des choses comme ça.
Une fois qu'on a trouvé la bonne musique, une fois qu'on sait de qui on parle et qu'on se jette pas dans les clichés, c'est-à-dire qu'il y a pas le con, l'abruti, la conne, l'envieuse et le, parce que ça ne trompe personne.
Hein, c'est pas les stéréotypes habituels, quoi.
Non, il y a deux écoles. C'est considérer que Audiard disait, je vois pas pourquoi un monsieur tout seul serait plus intelligent que 6 millions de personnes ensemble. Donc voilà, c'est une école. Moi, je pars du principe que les gens sont plus intelligents que moi, donc faut que je fasse des efforts pour les surprendre au bon moment. Donc à partir de là, il faut que les personnages parlent juste et il faut que les acteurs et plaisir à dire ce qu'ils disent. Après, effectivement, je crois que c'est qu'une histoire de taille d'idée et puis un peu de technique d'écriture qui correspond au format. Mais d'abord, c'est la musique. Il faut que ça sonne juste. Si ça sonne juste sur 30 secondes, il n'y a pas longtemps que ça sonne pas juste sur 3 heures. En tout cas, c'est un bon début. Après, je sais pas. On se plantera peut-être.
Eh bien, merci beaucoup et longue vie à Kaamelott.
Eh bien, merci à vous. Et puis, longue
vie. Ça a l'air bien parti, a priori.
Oui, ça a pas mal démarré. Je vous remercie.
Voilà, on est en 2005, je vous le rappelle, au livre 2 de Kaamelott, et tout y est. Mais alors, tout. Le socle crédible, les idées qui créent le format, les projets d'épisodes plus longs, puis le projet de film, la référence à Audiard, et surtout l'intérêt qu'Alexandre Astier porte aux acteurs. Les acteurs et actrices de Kaamelott, justement, eh ben, il y a Franck Pithiot, Lionel Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Imbert, Nicolas Gabon, Jacques Chambon, Audrey Fleurot, Thomas Cousseau, Joël Sevilla, Simon Astier, Jean Rollin, bref, tous et toutes seront non seulement parfaits, mais carrément géniaux. Totalement dans leur rôle et d'une justesse absolue, sans tomber dans la grosse pantalonnade. Astier vient de nous le dire, il écrit pour eux, il les dirige, il aime les acteurs et il leur rend bien. Et ça se voit. Et la série britannique qu'Alexandre mentionne, Big Train, c'est une série à sketch qui fait plonger souvent le quotidien un peu dans le surnaturel, enfin en tout cas l'imaginaire, et le macabre. Et elle est jouée par Simon Pegg et Nick Frost. Elle est créée par Graham Lindemann et Arthur Matthews, les créateurs de Father Ted, et pour Lindemann, de The Hit Quarrel, de The Black Books, bref, toutes des comédies absolument géniales. J'ai voulu vous proposer cet entretien dans son intégralité, y compris dans mes questions un petit peu dédaigneuses, il faut bien le dire. Il est vrai que je ne voyais là que des sketchs rigolos sur un monde médiéval, alors que mon interlocuteur me faisait comprendre qu'il avait déjà pas mal de choses en tête.
Prenez la roue, par exemple. Ben ça, c'est festif. D'abord parce que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Bon, ben tout le monde peut venir avec son petit bâton, les gens participent, c'est convivial.
Non, c'est atroce.
Mais pas du tout.
Non, si, ça craint. Non, ça craint. Écoutez, on passe quand même pour être un pays moderne.
Un pays bourré de délinquance. Les types ont pas assez peur, hein. Alors, ça impressionne qui la pendaison aujourd'hui? Mais personne, hein. Tandis que vous prenez, par exemple, l'écartèlement.
Ah voilà, ça oui, ça c'est super.
Ah non, alors ça justement, ça craint.
Ah oui, mais il y a un suspense. Les gens se demandent si c'est les bras ou les jambes qui vont lâcher en premier.
Ah ben oui, puis ça a un peu de gueule au moins. Non, mais alors vous, on se demande ce qui vous plairait, hein.
Bah, je vais vous dire, moi j'ai pensé à un truc. Alors, c'est vrai que ça peut paraître con comme ça, mais imaginez qu'on soit le seul pays au monde où on ne condamne plus à mort. Truc.
Et ces choses-là, eh ben, elles arrivent dès la fin de la saison 2, tournées un petit peu plus tard, en même temps que les épisodes de la saison 3. Le chevalier Lancelot du Lac, fidèle ami d'Arthur, commence à s'opposer à lui et confie à Bohort qu'il est amoureux de la reine, la femme d'Arthur.
À présent, n'avez-vous pas vous-même un secret à me dévoiler ?
Ma foi, rien de bien romanesque, j'en ai peur. Si. Je suis amoureux de la reine.
L'antagonisme entre les deux hommes se transforme petit à petit en détestation. Et dans le dernier épisode, plus sérieux que d'habitude, on découvre que le beau-père, Léo Dagan, vole des trésors de Camelot, mais que... ben, Lancelot aussi.
Est-ce que c'est vous qui descendez les sacs au retour de quête ?
Ça m'arrive, oui, alors.
Et alors, vous descendez tout le sac ou vous faites une pause au milieu de l'escalier pour faire le tri ?
Quel tri ?
Entre les trucs que vous me laissez et ceux que vous mettez dans les fouilles.
Mais c'est pas croyable d'entendre ça!
On va peut-être se calmer un petit peu.
Débrasser, je peux m'en payer 200 si j'ai envie!
Mais en plus de ceux que vous me piquez, vous aurez de quoi ouvrir une boutique!
Non, mais j'y crois pas!
Attention, hein, parce que ça va partir!
Nous sommes maintenant en 2006. Et si le format de la saison 3 reste le même, à savoir une shortcom de 3 à 4 minutes, la saison permet à ces personnages d'évoluer et d'être entraînés dans des arcs narratifs qui se développent sur plusieurs épisodes par petites touches. Ce qui avait été initié dans la saison précédente se retrouve dès le premier épisode de cette nouvelle saison. Lancelot prend ses distances et est en conflit ouvert avec Arthur.
Lancelot ? Non, c'est dingue ça. Les gens vous voient pas pendant 3 semaines, alors ça y est, vous êtes mort.
La vache, je vous avais pas reconnu.
Mais je comprends pas, vous sortez d'où là ?
Qu'est-ce que vous faites là ?
Où ça là ?
Dans la forêt ?
Bah j'habite là, la moitié du temps.
Non mais je veux dire en pleine brousse.
On en a déjà parlé, sire. La moitié du temps, je reprends mon statut de chevalier errant.
Non mais je sais, mais moi je croyais simplement que vous faisiez moitié Camelot, moitié, on sait rien moi, une auberge de voyageurs.
Je sais pas si vous êtes bien intime avec le concept d'errance.
Déjà un chevalier errant à mi-temps.
C'est pour pas laisser tomber les pantins de la table ronde que je fais du mi-temps. Ce serait que de moi, il y a longtemps que je verrai plus leur tronche.
Eh oh oh, ça va oui ?
Excusez-moi, sire.
Et je rappelle quand même que les séances de la table ronde ne sont pas obligatoires. Si c'est pour venir à contre-cœur, vous pouvez très bien vous abstenir.
Ah bah d'accord. Ce sera pas difficile de faire plus constructif. Un village assailli de brigands, une femme qui se fait tabasser, une poule qui boite, c'est pas les opprimés qui manquent. Et là au moins, j'aurai l'impression de servir à quelque chose.
Une des trames absolument cruciales de cette saison, c'est la relation amoureuse qui va naître entre le roi Arthur et la femme de Caradoc, Mévaoui. Cet amour, cette trahison vers le chevalier Caradoc va entraîner le désaveu des dieux pour Arthur et le départ de Guenièvre.
Et qu'est-ce que vous allez faire ? Respecter la loi et assassiner votre ami Caradoc ?
Je sais pas. Je sais pas, on sait pas ce qu'on va faire.
Et qu'est-ce que vous allez faire de moi ?
De vous ? C'est-à-dire comment ça ? Mais je sais pas, rien. Enfin, si, comme d'habitude, quoi. Oui, voilà, rien.
Et de son côté, Lancelot va casser toute relation avec Camelot par amour pour sa reine.
Ma reine, écoutez-moi, je vous en conjure. J'ai un message de la plus haute importance à vous transmettre de la part du seigneur Lancelot.
Lancelot, mais...
C'est un secret qui me glace le sang et je prie les dieux qu'aucun maléfice ne s'abatte sur nous.
Un maléfice ? Mais qu'est-ce que vous déconnez, seigneur Bohort ? Vous avez picolé ?
Le seigneur Lancelot est amoureux de vous.
Quoi ?
Mais... pas que, quand même.
Vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Je vais me débrouiller tout seul. Et même tout nué sur un pied, j'irai toujours 100 fois plus loin que vous et votre risible compagnie de crétins.
Thank you. Bon, vous avez compris. Il est très clair maintenant qu'Alexandre Astier décide d'orienter Kaamelott dans une direction clairement feuilletonnante et de développer les trames et l'aspect saga de la série. La saison suivante, 100 épisodes, durant l'année 2006, sera entièrement sous ce format. On continuera d'explorer la nouvelle vie d'Arthur avec Mévanoui, qui va parvenir à prendre pour épouse, et la nouvelle vie de Guenièvre, aux côtés de Lancelot. Il n'y aura que les plaintes et cris des autres membres de Kaamelott, et ça irait tout seul. Sauf que les dieux, visiblement, n'apprécient pas du tout cette relation adultère. Ils bannissent la Dame du Lac, et la prophétie ne dit rien qui vaille.
Vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. Regardez. Siècle des larmes, hurlement. Très bien. Au jour, Dieu, roi de l'ogre, fait affront. Du lac combattant, frère à l'épée, femme de vanne, épousée comme est faute. Panique, ruine, fin d'un monde. Sur terre, sans démon ni sorcière, vient Dieu des morts, solitaire des frayeurs. Du ciel à l'insulte, la réponse. Là, ça pue du cul, mais violent.
Même si, à la fin de la saison, Guenièvre et Arthur sont à nouveau réunis, Lancelot, lui, a disparu, et il est présumé devenu fou. Mais c'est alors qu'il se retrouve seul et désemparé, et qu'il est rejoint par un homme très mystérieux, Méléagant.
Juste un autre aplomb, une corneille est posée sur une branche. Dans quelques secondes, elle va s'envoler. Voilà. Nous avons franchi le solstice d'été. Et pendant que d'autres célèbrent le jour le plus interminable de l'année, nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. Levez-vous.
Avec ces changements et ces menaces, Kaamelott prend une direction narrative de plus en plus ambitieuse et dangereuse, compte tenu de son statut initial de shortcom, un statut qui n'est peut-être plus adapté à la saga qui est en train de se nouer. Manquait plus qu'à adapter le format pour que cela corresponde plus au type d'histoire qu'Astier veut raconter. Et ça sera chose faite en 2007, pour la saison 5. Les épisodes quotidiens font maintenant 7 minutes, et surtout, pour Alexandre, ce sont leurs formats compilés en 52 minutes qui correspondent à ce qu'il souhaite faire. Le royaume d'Arthur se disloque, même Perceval et Caradoc vont créer leur clan, les semi-croustillants, et poussé par ses beaux-parents, le roi va replanter l'épée Excalibur dans le rocher. Le plan étant que, quand il la reprendra, tout le monde sera à nouveau sous le charme, sauf que Arthur décide de mentir, de ne pas la reprendre et de renoncer au trône.
Retirer Excalibur du rocher, j'y arrive pas. Je force, rien. Ça fait une heure et demie que j'y suis.
Qu'est-ce que vous me chantez, là ?
Ça fait pas comme d'habitude, Ça vient pas, c'est coincé dedans. Je suis désolé, je peux rien faire.
Non mais réessayez, si ça se trouve, vous tirez pas droit.
Mais je tire droit, simplement ça vient pas, c'est tout. Je sais ce que je dis, quand même.
C'est impossible. C'est impossible, cette épée ne répond qu'à vous seul.
Eh ben, elle me répond plus. Il faut se rendre à l'évidence.
Mais les dieux peuvent pas vous priver de votre arme. Enfin, pas maintenant. Mais Lancelot est vivant. Et il est accompagné par un être épouvantable. Non mais la situation est catastrophique. Il faut absolument que vous récupériez Excalibur!
Je suis désolé, mais les dieux ont pas l'air de votre avis. Je crois qu'ils en ont marre de ma tronche.
C'est dans ce contexte que je retrouve Alexandre, invité de la manifestation Scénariste en série organisée par Marie Baracco en octobre 2007. On se connaît bien mieux maintenant, et le passage aux 52 minutes est un événement majeur pour la série.
Je mets, pour répondre directement à ta question, ce que je mets systématiquement dans ce que j'ai écrit, y compris au théâtre avant, qui est le fait de donner des choses qui vont bien et puis hop, de casser ça avec quelque chose qui d'un coup emmène au fond du trou et puis de ressortir et de... J'avoue que je suis habité par les deux trucs. Un personnage qui descend au fond de son anxiété et de son angoisse personnelle, je voudrais pas me passer d'écrire ça. Voilà.
Et puis c'est peut-être par l'histoire. Là, on entre dans une phase de l'histoire du roi Arthur dans laquelle c'est beaucoup plus sombre qu'au début, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est le mélange, le fameux triangle auteur, histoire, héros, qui en fait font la même chose, tous les trois. Et ben voilà, on fait des montagnes russes, quoi. En ce moment, effectivement, la saison 5, et ben c'est la saison qui amène Arthur au fond de son véritable problème qui est la descendance. C'est l'histoire de la saison 5.
Lors de la deuxième partie de cette saison 5, absolument cruciale, en fin d'année 2007, le ton est maintenant totalement différent. Arthur entreprend une sorte de déambulation dans son royaume, à la recherche d'une descendance qu'il aurait pu avoir sans s'en douter. C'est la thématique qu'Alexandre nous avait annoncée à Scénariste en série. C'est le mystérieux Méléagant qui va le guider et lui imposer un passage chez son père adoptif, qui ne le reconnaît pas. L'épisode, proprement bouleversant, met en scène Guy Bedos dans le rôle d'Anton, son père.
On a eu un petit gamin avec nous, ici, chez nous. Petit orphelin, petit bonhomme, haut comme ça, 3-4 ans. Et il se trouve que c'est ce petit gamin qui a retiré l'épée. Arthur, il s'appelait. Et ça, l'autre taré, il n'avait jamais pu l'avaler. C'était mignon, ce môme. Intelligent. Et puis curieux de tout.
Vous l'avez jamais revu?
Après, il me l'aurait pris pour l'emmener à Rome, pour en faire un soldat. J'ai dit, mais il est trop petit pour partir là-bas. Mais il l'a emmené quand même.
Et quand il était roi ici, il n'est jamais repassé.
Bonne nouvelle. Même pas eu de lettre, rien. C'est dégueulasse.
Parle poliment, toi. Qu'est-ce qu'on aurait foutu d'une lettre? On sait même pas lire.
C'est bizarre, quand même.
Un roi, ça a beaucoup de choses à faire. Enfin, je suppose. C'est sûr que ça fait mal parce que je me suis toujours considéré comme son père.
Persuadé maintenant qu'il est incapable d'avoir une quelconque descendance, Arthur va revenir à Camelot, sans but et totalement déprimé.
C'est pas possible, ça, vous nous prenez pour des glands?
Je vous préviens, moi j'ai bâti une forteresse quand même.
De quoi?
Pour le Graal, j'ai bâti une forteresse, moi. Camelot, ça s'appelle. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmélide, à Gaune, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde, pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal, pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai.
Non, mais si, hein, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous.
Arrêtez de m'appeler Sire.
Ça sonne un peu comme un testament, non? Dans le dernier épisode de la saison, Arthur va tenter de mettre fin à ses jours. C'est Lancelot, visiblement sorti de l'influence mortifère de Méléagant, qui, contre toute attente, va sauver son ami le roi.
Où est-il?
Je croyais que vous étiez mort.
Pas encore. Pas tout à fait. Où est-il?
Je ne sais pas.
Où est-il?
Partez. Partez d'ici.
Le roi prend son bain.
Il n'est plus le roi. Laissez-le tranquille.
Perdre des gens qui vont dire « Oh, bah c'est plus les blagues du début !» T'as pas peur de les perdre ?
J'ai pas peur de les perdre. J'ai conscience de pouvoir les perdre, oui, c'est sûr. Peur de les perdre, non, parce que c'est l'identité de Kaamelott, ce qui se passe maintenant. Si Kaamelott amène à ne plus plaire à certaines personnes, ça ne plaira plus à certaines personnes. J'estime qu'il est tout à fait possible, au moins autant possible, qu'il y ait des gens qui se mettent à aimer Kaamelott maintenant qu'ils y voient une seconde couche ou une troisième. Donc, je pense que c'est fait aussi honnêtement que le début, C'est même encore plus personnel, maintenant, ce qu'il y a. J'assume cette part-là et j'essaie de la donner honnêtement et généreusement, comme le reste. Je ne vois pas pourquoi est-ce que... Je pense que ça va finir par se voir que c'est aussi honnête que le reste et que ça a sa place. Je pense que je risque pas grand-chose. Au moins sur le long terme. Je te dis pas qu'à court terme, il n'y a pas des gens qui vont un petit peu dire « Attendez, moi je mettais ça pour me marrer, et puis finalement, là, ça fait trois épisodes que je vois, je ne me marre plus. » Ce que je regrette, hein, encore une fois. Mais maintenant, Kaamelott, c'est fait pour du format long. Et sur un 52, il y a la place des deux. Il y a la place de se marrer et d'arrêter de se marrer et de se remarrer de nouveau. Donc, le DVD numéro 5, ce sera 8 épisodes de 52 minutes. Il n'y aura plus de cours dedans. Donc, ce sera équilibré par le format. Et ce sera pas les montagnes russes à regarder. Ça sera un tout. J'essaye d'encourager ça.
L'évolution de la série est visible non seulement dans ses thèmes, mais aussi dans sa réalisation. Au fil des années, on a introduit de nouveaux décors intérieurs et la série est maintenant tournée à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Mais la saison 5 et la quête d'Arthur entraînent un tournage en grande partie en extérieur, du Massif Central au Vercors. De plus, si les premières saisons ne comportaient aucune musique incidentale, mis à part le générique début, plus la série devient dramatique, plus des musiques composées par Alexandre apparaissent dans les scènes majeures. Donc, en 2007, Kaamelott a totalement basculé de la shortcom à la série dramatique. C'est l'occasion de revenir sur ce format et la façon dont Alexandre l'a utilisé.
Très honnêtement, j'ai l'impression que, si tu veux, ce qu'on appelle le shortcom, pour moi, c'est directement issu d'une guéguerre toute particulière française qui se passe dans une certaine tranche horaire à la télévision. Il faut piquer du monde à la TF1 parce qu'on vient de chez Poivre d'Arvor, il faut qu'il loupe pas la météo, il faut qu'il passe par le PMU. Et entre tout ça, il y a les pubs qui rapportent le plus d'argent à la télévision de toute la journée. L'Access Prime, c'est donc c'est la guerre. On se pique les courbes des Audimat sont des plus chaotiques à cette heure-là. Ils passent de l'un à l'autre, etc. Donc il faut garder les gens un petit peu pour leur faire voir une pub ou deux de plus. C'est un créneau et donc un format qui est purement inventé par les chaînes et par les besoins des chaînes. Et comme à chaque fois qu'on laisse une porte ouverte à des auteurs, il y a des mecs qui rentrent dedans, qui disent ouais, bien sûr, on va faire ça, bien sûr qu'on va vendre du Coca-Cola. Et puis en fait, c'est une arnaque notoire, c'est-à-dire qu'on rentre dedans et on pousse les murs. Et on va faire des films, on va faire des machins, parce que nous, ce qu'on veut, c'est raconter des histoires. On nous laisse 3,30, on fait 3,30, on nous laisse 26, on fait 26, on laisse 52, on fait 52. Le propre du format, moi, je l'utilise pas, parce qu'encore une fois, j'écris 6 heures et je fais ma découpe après. C'est pour ça que je peux faire des 52, c'est que je le découpe autrement, en fait, finalement. Donc, je ne pense pas que ce soit une spécificité française. Je pense que ça part de quelque chose de purement marketing qui est récupéré par les auteurs qui ont envie de faire leur métier et qui est, dès que possible, poussé ailleurs et transformé pour peut-être un format qui encourage plus la narration et la récurrence. Mais
avec un format pour lequel, visiblement, les chaînes ne font pas trop gaffe. Et donc, ça permet peut-être à des auteurs... Ça, je l'ai beaucoup entendu. Allez, ouais. Mais attends. Étant donné que ça passe vite, on ne nous demande pas d'être aussi formaté.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que...
Cher, donc on ne nous demande pas d'être aussi formaté que le grand 52 minutes.
Non seulement ça, mais en plus de ça, ce n'est pas le même département des chaînes qui s'en occupe. C'est le département divertissement et pas fiction. Donc en plus de ça, il n'y a pas l'école de la correction de texte, de machin, de trucs, de l'étude des protagonistes et des arches narratives. Il n'y a pas ça. Il y a une émission qui, bon an, mal an, si elle fait son taux d'audimat, ça veut dire que l'annonceur d'avant et d'après font leur... Le prix à la seconde est le bon, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc effectivement, il y a moins de vérifications. Donc en plus de ça, il se trouve que c'est une petite cour de récré. Une toute petite cour de récré.
Oui,
et les cours de récré...
C'est un système, quoi. C'est...
Oui, je pense. Mais il y a une justice à tout, c'est les auteurs qui récupèrent ça, au-delà des annonceurs. Voilà.
Eh ben merci.
Mais de rien.
Vous avez compris. Kaamelott est né d'une fenêtre de liberté créative dans laquelle Alexandre s'est engouffré pour répondre aux demandes du format, mais aussi profiter de cette situation. Maintenant, à la suite de près de 400 pastilles humoristiques, Astier torpille le format pour poursuivre sa narration, mais avec sa propre donne, ce que le succès lui a apporté. Pour que l'histoire se poursuive, la mutation devra donc se poursuivre elle aussi. La suite de Kaamelott, encore plus ambitieuse et surprenante, mettra un an à être produite. Et c'est en octobre 2009 que la suite, la saison 6, est enfin diffusée. Mais même là, Astier va surprendre les spectateurs avec quelque chose dont il ne s'attendait pas. Le 25 mars 2009, 7 mois avant la diffusion, les épisodes sont projetés sur grand écran au cinéma du Rex, en présence bien sûr de toute l'équipe. Au milieu du tumulte et de l'engouement, Alexandre me retrace ce qu'il a voulu faire avec cette saison hors du commun.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar qui est en train de nous faire de céder à la mode du préquel alors tout le monde fait des préquels et ça y est, Kaamelott fait un préquel. Pourquoi faire un préquel? J'y vais très fort, je sais, je commence.
Premièrement, je pense que c'est le plaisir de l'auteur. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer à l'ingénierie de ce qui va suivre, moi pour écrire ça, j'ai regardé les 5 saisons existantes. Et j'ai pu choisir, comme au supermarché, ce qui méritait qu'on lui fabrique un passé ou pas. Du moindre détail, comme une bague au doigt, jusqu'à carrément un caractère complet. Pourquoi est-ce qu'il est dépressif? Pourquoi est-ce qu'il bouffe tellement? Pourquoi est-ce que... Et en fait, je me suis surpris à vraiment apprécier ça. À avoir la capacité, l'omnipotence de créer des causes aux conséquences, au lieu de créer des conséquences aux causes. Tu vois? Et ça, c'était... vraiment parce qu'évidemment il faut créer des causes inattendues, il suffit pas simplement d'expliquer comment c'est arrivé, il faut l'expliquer de manière à l'expliquer de manière complètement inattendue, complètement imprévisible, de créer des pièges. Créer le préquel, c'est créer des pièges pour le public, pour les fans, pour ceux qui aiment. Et puis je me rends compte, en fait c'était pas calculé. Mais par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Kaamelott du tout a plus de facilité à rentrer dans la 6 que dans la 5. Parce qu'en fait, s'il n'a rien vu, bah de toute façon, pratiquement toutes les têtes sont nouvelles. Donc c'est plus simple de débarquer dans la 6. Donc ça a aussi ça comme truc. C'est peut-être, ça rafraîchit un peu le tout.
Donc c'est du Kaamelott pour les gens qui n'aiment pas Kaamelott. On l'a fait à Giga Brahms, qui veut faire un Star Trek pour les gens qui n'aiment pas Star Trek. Je sais, c'est un peu poussé. Mais alors tu prends comme tu veux, hein.
Non mais par exemple, la saison 5, qui était beaucoup plus sombre, on a dit il y a des gens qui aimaient, qui n'aiment plus. Ce qu'on a moins dit, c'est qu'il y a des gens qui n'aimaient pas, qui se sont mis à aimer à la 5. Et au bout d'un moment, je crois que c'est en racontant ce qu'on veut raconter qu'on se fait la famille qu'on doit avoir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont là aujourd'hui, ben, c'est les gens qui aiment ce principe-là. Le principe du fait que les saisons se ressemblent pas forcément entre elles, finalement. C'est moi que j'essaye d'amuser en premier, en fait. C'est moi que j'essaye de distraire de l'ancien truc.
Et tu as tout ça en ayant en tête le fait qu'après, il y aura la trilogie cinématographique et que donc, la meilleure chose à faire était là maintenant de faire un marquette parce que ce serait pas au cinéma, etc. Enfin, je pense que tout ça est conçu, c'est ton master plan dans ta tête.
Oui, il est discutable. Le fait que le préquel n'aurait pas lieu au cinéma, c'est peut-être pas la bonne solution. Il aurait peut-être eu lieu, je sais pas, il aurait peut-être dû avoir lieu au cinéma plutôt que là. Mais il y a comme une espèce de remise des compteurs à zéro avec le préquel. Une explication globale de tout, de comment c'est arrivé, de comment Arthur a sombré dans la dépression surtout.
Et justement, moi je voulais t'orienter là-dessus. On a laissé Arthur, et c'est normal que c'est un préquel, on a laissé Arthur quand même, à la fin de la saison 5, en pleine dépression. Le grand thème de la saison 5, c'était la recherche de soi, la recherche de ses racines. Là, les racines, on les voit. Quel est l'Arthur qu'on découvre dans ce numéro 6? Plus enjoué.
C'est l'Arthur qui est aux prises avec quelque chose qui est trop gros pour lui. C'est pour ça qu'il sombre dans la 5. Je pense que c'est pour ça que globalement ce personnage se décourage. Parce que c'est trop gros pour lui. Et parce qu'il n'est pas entouré de gens qui peuvent pallier à ses défaillances. Donc ce qui se passe, c'est que là, ça explique comment le pouvoir, on ne va pas le chercher, mais on se le fait refiler, comme une patate chaude. Arthurus, c'est son nom romain, dans la saison 6, est parfaitement victime du pouvoir qui va se retrouver dans sa poche, comme ça. Il fait partie d'une vaste manipulation du gouvernement pour récupérer une colonie. On dirait que ça pourrait être lui comme tant d'autres. Mais il a quand même un destin, et c'est trop gros pour lui. Donc, j'ai montré à quel point ça pouvait le torturer et comment ça pouvait pratiquement le tuer.
et j'explique plus pourquoi. C'est comme si je mettais une tarte à quelqu'un et qu'après je lui dise, mais attends, je vais t'expliquer, en fait c'est pas si violent que ça, ça a des raisons.
Cette saison se passe effectivement à Rome, à une époque où le jeune Arthur est âgé de 20 ans. Et sous le nom d'Arturus, il est devenu un soldat au sein de la milice urbaine de Rome. Il va y rencontrer César, et parce qu'il vient de Bretagne et plus cultivé que les autres, un sénateur a l'idée de faire de lui le maître du pays à la solde de Rome, celui qui extraira Excalibur du rocher. Ce plan va fonctionner au-delà de toute espérance, mais Arturus va trahir les sénateurs romains et va prendre le parti des Bretons contre l'envahisseur. Comme Alexandre vient de le dire, si ce préquel peut surprendre, il a l'avantage de raconter une nouvelle histoire, sans besoin de connaître la précédente. Et surtout, elle bénéficie de moyens bien plus importants et d'une chance absolument incroyable. Rome existe, là, entièrement reconstituée. En effet, l'équipe va bénéficier des décors déjà existants et se rendre donc à Cinecittà.
Ça a quand même dû être une opportunité formidable de tourner à Cinecittà, le décor de la série Rome. Raconte tout ça. J'ai vu ça dans le DVD, un petit peu dans le DVD de la saison 5, dans laquelle il y avait un mec qui est là-dessus.
Ouais, ouais.
Tu te balades dans les décors et tout, mais on sent le type. Putain, j'y suis, quoi.
Ah, bah oui. Mais non, mais c'est clair, c'est Non, puis tourner à l'étranger aussi. Tourner à l'étranger, tourner avec des équipes étrangères, tourner avec des figurants étrangers, tourner avec des figurants italiens de Cinecittà qui sont extrêmement généreux, qui sont très, qui jouent beaucoup en fait pour des figurants. Tourner dans un contexte où Kaamelott n'est pas connu, parce que là-bas, Kaamelott, il tourne beaucoup de trucs américains, il tourne beaucoup de trucs du monde entier en fait. Mais ce pont entre l'Italie et la France était vachement agréable. Et puis.
Tu avais vu la série Rome avant ?
Oui, c'est pas ma préférée, j'avoue.
Mais tu avais repéré en disant tiens, ça ?
Bah, par contre, c'est beau, ouais.
Si tu n'étrises pas les décors, après, ça va me servir.
Faut pas qu'il fasse tout brûler, mais oui, oui. Non, mais c'est magnifiquement fait, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas ma préférée parce que c'est peut-être un peu. Justement, d'ailleurs, je trouve que c'est une façon de montrer l'histoire qui est peut-être un peu. Les dialogues sont peut-être un peu littéraires. Ça manque d'humanité, alors qu'on nous le dépeint comme quelque chose qui va accepter le sexe, la brutalité, le premier degré. Je trouve que le langage ne suit pas. Je trouve qu'on est sur, on est un peu comme quand les historiens écrivent des personnages, ils sont toujours un peu. Les acteurs ont du mal à.
On devait quand même s'attendre à ce genre de tournage plutôt pour le long métrage qui bénéficiera, je suppose, d'un budget supplémentaire. Là, pour la télévision, l'opportunité d'aller tourner, comme tu l'as dit, à l'étranger, dans un décor somptueux. Je venais de tout faire en deux jours, je travaillais nuit et jour,
un petit peu, oui. C'est-à-dire que les journées Cinecittà, il a fallu en faire deux par jour, c'est sûr. Il a fallu, c'est des vases communicants. Mais en fait, je me rends compte que l'équilibre marche pas mal à l'écran. C'est-à-dire que quand tu vois une grande fresque avec un forum, la caméra qui monte sans figurant, et puis qu'après tu arrives dans un dortoir, le dortoir est crédité par ce qu'on a vu avant, alors que le dortoir, lui, pour le coup, il me coûte rien. Je le tourne à Lyon, dans un studio, quatre murs, quatre planches, et six mecs dans des lits. Donc, c'est une histoire de balancier comme ça. Il faut rappeler au public, il faut le replonger dans Rome, comme les frites. Il faut lui redonner du pour qu'on se souvienne dans quelle ampleur on est. Et après, on a un petit délai de choses plus simples qui sont encore sur l'élan du plan impressionnant.
C'était quoi comme affaire ? C'est toujours le simple. Le syndrome de la pluie et l'œuf, c'était parce que le scénario imposait l'idée de faire des plans censés être à Rome que tu as vu si tu pouvais tourner à Cinecittà, ou c'était parce que tu avais l'occasion de tourner à Cinecittà que tu as conçu un scénario dans lequel les actions
se. Non, c'était le script d'abord. Je savais que la jeunesse d'Arthur se déroulait à Rome, je savais que c'était un chef d'une colonie romaine mis en place par Rome, mais local, natif. Comme les Romains faisaient souvent, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils avaient, à la tête de colonies, ils avaient des gens du coin qu'ils avaient romanisés. Et ça, je savais que ce serait. J'ai toujours su que ce serait ça. Donc, non, on a bel et bien cherché à tourner Rome. Et on a même cherché ailleurs que Cinecittà. On a cherché en Tunisie, on a cherché en France, on a cherché dans des ruines, on a cherché. Il se trouve qu'on a eu la chance et on a organisé l'ingénierie nécessaire à pouvoir se payer ça. C'est très cher, évidemment. Mais non, c'est venu après.
Bon, c'est le livre 6 maintenant c'est terminé pour toi depuis quand même pas mal de temps, le tournage a eu assez longtemps je suppose, et donc maintenant ça y est c'est fini, tu es un traître, tu passes au cinéma. Quoi.
Tout à fait. Mais
Eh bien, voilà.
Non, mais je passe au cinéma. Je n'ai pas eu une vie assez monotone à la télévision pour dire que je n'en referai plus, par exemple. La série étant la seule chose qui... Par exemple, tu vois, dans mes tiroirs, j'ai quelque chose qui s'appelle Vinzia. Vinzia, c'est un projet un peu vaste qui est aujourd'hui à l'état de documentaire. C'est des 40 heures de rush... de documentaires sur les Italiens en France, sur les familles laissées en Italie, sur les États-Unis, sur tout ça. Je commence par le making-of un peu, si tu veux. Et ça, c'est une matière à un grand projet qui me tient très à cœur, parce que je suis issu de ce type de famille, donc c'est un truc que je veux faire. C'est difficile, mais je veux m'y mettre. Et en fait, pour y arriver, je me dis que le cinéma ne sera pas suffisant. Je ne veux pas créer 10 films de cinéma, mais je ne veux pas faire tenir mon histoire en 2 heures non plus. Donc je pense que la seule solution qui se présente à l'heure d'aujourd'hui pour ce projet qui n'a pas encore vu le jour, c'est probablement une série télé.
Et Kaamelott, par contre, la seule solution qui s'offre, c'est de continuer ta trilogie et de faire des personnages...
Je pense que j'ai relativement déjà pas mal poussé les murs du format télé. Je pense que ce que tu as vu là, c'est un peu le max. Je peux plus pousser plus loin. Les moyens, le moindre centime a été utilisé à l'écran. On a doublé les minutes par jour, on a fini comme ça. Là, j'ai besoin de... Il faut un peu plus de place.
Ah ben voilà, ça y est, c'est la sonnette du Rex qui nous indique que la projection va reprendre. Sauf qu'il faudra attendre octobre 2009 pour découvrir les 2 ultimes épisodes qu'Alexandre ne révélera pas ce soir-là, et pour cause. Si le 8e épisode clôt le flashback et montre maintenant Arthur à la tête de la région, le 9e fait un bond dans le temps et reprend là où la saison 5 s'était achevée. Aux portes de la mort, Arthur confie le trône à Lancelot. Ce dernier, à nouveau manipulé par Méléagan, fait capturer les chevaliers, fait fuir le père Blaise, Merlin et les autres dans la forêt et il brûle la table ronde. À la toute fin de l'épisode, Arthur semble sortir de sa dépression. Il reprend l'entraînement. Il sera bientôt le nouveau héros. Ainsi se termine Kaamelott à la télévision. Et vous avez compris maintenant que la transition vers le grand écran est loin d'être opportuniste, car elle est envisagée par Astier depuis le tout début. Comme il vient de nous le dire, il a poussé les murs au maximum. La suite ? Eh bien la suite, Alexandre a continué de nous la révéler en 2012. C'était lors d'une conférence où nous l'avions convié, Romain Gita et moi. C'était au Comic-Con Paris, la manifestation qui, des années durant, précéda celle qui se tient maintenant de nos jours. Et nous l'avions organisée avec lui, dans le but d'annoncer un nouveau projet.
Ce qui permet donc de faire la liaison avec un logo que vous avez vu ici au Comic-Con et qui a un peu circulé sur Twitter.
C'est sympa, ça.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Donc cette masterclass est terminée. Ça ne fait rien. Vous êtes 4000, j'ai un aplomb, je m'en fous. C'est marrant. C'est Kaamelott Résistance. Voilà. Kaamelott Résistance, qu'est-ce que c'est ?
Ah ben oui, qu'est-ce que c'est ? Eh ben ça, il nous le racontera la semaine prochaine, tout comme on parlera d'un autre événement Kaamelott. Car si vous êtes habitué aux séries qui reviennent tous les ans, là, 12 années se seront écoulées. Eh oui ! Le premier volet du film Kaamelott, écrit, conçu, réalisé et composé par Alexandre Astier, arrive le 21 juillet. La semaine prochaine, dans le dernier Previously de la saison, nous donnerons donc encore la parole à Alexandre Astier pour nous livrer quelques coulisses sur sa saga, pour nous parler de Kaamelott Résistance et, oui, pour nous parler du film. Ce podcast est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox et Overcast.